Alors aujourd'hui, 12 mars 2021, cette journée qui marque, on se le rappellera, l'anniversaire de la pandémie de la COVID-19 qui frappait le Québec et le monde entier il y a exactement un an. Donc, dans ce sujet, dans cette optique, l'IPS a décidé de revenir avec trois balados, en fait trois épisodes, les épisodes 5, 6 et 7, qui seront entièrement consacrés à ce phénomène qui est de plus en plus préoccupant, entre autres sur les réseaux sociaux, le phénomène des fausses nouvelles. Alors aujourd'hui, en fait, on est avec trois panélistes que j'ai invités pour parler des fausses nouvelles. En fait, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus foisonnant avec ce qui se passe en ce moment dans la sphère publique en lien avec la COVID-19, la pandémie qui est en cours, en fait. Donc, les trois panélistes avec qui je suis aujourd'hui, il y a Marc-André Dansereau, en fait, qui est un professionnel de recherche à l'IPS et également coordonnateur de la plateforme de phénotypage préclinique. J'ai également avec moi Alexandra Chapdelaine, qui est étudiante au doctorat au programme de recherche en sciences de la santé, de même que Carmen-Édith Belay-Rodriguez, qui est aussi étudiante au doctorat au programme de recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, toutes les deux. Donc, bonjour tout le monde!
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on est là ensemble pour discuter d'un sujet qui, je pense, vous intéresse tous les trois sous différents aspects, si on veut. Les fausses nouvelles sur le plan, en fait, de la santé. On va vraiment rester au niveau de la science aujourd'hui, en matière de science, en matière de fausses nouvelles en lien, entre autres, avec la pandémie, mais aussi avec la science en général, les recherches qui se font, tout ce qu'on peut trouver sur Internet qui, parfois, est pas loin d'avoir l'air crédible, mais n'est pas toujours aussi crédible qu'on peut le croire. Donc, pour commencer cette belle discussion avec vous trois, en fait, j'aimerais savoir, pour vous, là, en ce moment, qu'est-ce qui explique là, pourquoi on voit autant de fausses nouvelles scientifiques sur les différents médias sociaux? Pourquoi est-ce une recrudescence, en fait, de ce phénomène-là en ce moment? Qu'est-ce que vous diriez qui explique cela?
Je sais pas si c'est tant une recrudescence que ça, que juste la vie et les médias qui ont changé, là, parce que d'aussi longtemps qu'on se rappelle puis qu'on a des écrits, les gens ils ont toujours essayé de se convaincre de se faire ou de raconter des histoires puis tout ça, puis des fois ça a été vrai puis des fois c'était pas vrai, là. On peut penser ne serait-ce qu'en Grèce antique où les gens ils se développaient une expertise en comment convaincre les gens, peu importe le contenu de leur discours, leur seul job c'était de convaincre les gens. Puis ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, puis que ce soit aussi les canulars des poissons d'avril. Je me souviens aussi à Londres, il y avait des gens qui voulaient un peu niaiser les touristes qui venaient, puis leur faisaient croire qu'à une heure bien précise, ils nourrissaient les lions au palais de Westminster, puis il y a définitivement pas de lions, là. Puis tu voyais une grosse assemblée de gens qui étaient là, puis qui regardaient, puis tous les Londoniens disaient « OK, on sait pourquoi vous êtes là ». Ça fait longtemps que ça existe, des fausses nouvelles, des légendes urbaines, les journaux à potins, ça a toujours été un peu ça, là. On veut... On veut attirer les gens, puis que ce soit vrai ou pas, c'est un peu secondaire. Puis en science, c'est un peu la même chose. Là, tout le monde a toujours été fasciné par la science. Là. Il y a beaucoup de... Chaque journal, sa petite rubrique, nouvelles scientifiques, ça nous intéresse de savoir comment la vie fonctionne. Fait qu'on est toujours porté à lire ça. Puis là où il y a un intérêt, bien, il y a des gens qui vont remplir les espaces pour être lus, peu importe ce qu'il y a dedans.
Donc, tu dirais, toi, de ton côté, que c'est un phénomène qui est existant, en fait, depuis la nuit des temps. Si on pouvait utiliser ce terme-là qui n'est pas très populaire là, en communication, puisque c'est très imprécis et doit l'être encore moins en science quand on fait des recherches, mais c'est quand même un phénomène qui existe depuis nombre d'années, puis que, selon toi, n'a pas nécessairement une recrudescence, mais peut-être est plus visible à cause des médias sociaux. Est-ce que tu dirais ça?
Oui, définitivement.
Parfait, excellent. Puis d'un point de vue plus social... Qu'est-ce qui contribuerait à ce phénomène-là, selon toi, Alexandra?
Mais je dirais qu'à l'ère pré-COVID, il y a beaucoup, je pense, de fausses nouvelles qui partaient de la bienveillance. Donc, par exemple, marchez pas nu-pied, parce que... Non, c'était marcher nu-pied, je me suis trompée. Il y avait un petit vidéo qui disait qu'il fallait marcher nu-pied parce que, tu sais, il y avait de quoi avec les énergies, etc., ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, les gens partagent en disant, mais tu sais, ça pourrait peut-être faire du bien à d'autres personnes d'essayer ce genre de choses-là. Là, c'est ça, je pense qu'il y a eu un espèce de changement avec la COVID, donc là, c'est peut-être un peu moins de bienveillance, mais on voit vraiment beaucoup des gens qui sont agressifs dans leur publication puis qui veulent vraiment convaincre les gens de leur point. Fait que je pense qu'on voit vraiment un shift avec la pandémie en ce moment.
Mais je pense qu'en même temps, tu parles d'agressivité puis tout ça, mais il y a quand même un fond de bienveillance dans le sens que... C'est même quand ils disent « Réveillez-vous, mouton », ben ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille mieux. Ils pensent qu'on est victime de quelque chose, puis... ils veulent qu'on s'en aille tous dans la bonne direction, puis ils pensent intimement que ça, c'est pas la bonne direction.
Ouais, c'est la bienveillance agressive.
La bienveillance agressive.
Je vais te sauver malgré toi.
Mais là, on parle justement de réveillez-vous, mouton. On parle un peu de au niveau psychologique, en fait. En matière de psychologie, Carmen, toi, je sais que tu as un background en psychologie un petit peu. Est-ce que tu dirais, tu sais, qu'est-ce qui contribue psychologiquement à ce que ce phénomène-là, justement, soit aussi présent?
Il y a plusieurs choses qui ont changé, là. Donc, Marc-André l'a dit un peu, c'est quelque chose qui a été étudié même dans l'époque, en tout cas les Grecs, là. C'est ça, étudier un petit peu le phénomène pour développer des techniques pour convaincre les gens, puis etc. Aujourd'hui, les méthodes ont beaucoup changé, puis on connaît mieux un peu sur le fonctionnement du cerveau, puis on a beaucoup d'outils facilement accessibles, là, comme les réseaux sociaux. Donc, la plupart, il y a beaucoup de gens qui sont bons pour convaincre les gens, puis qui s'y connaissent en communication, puis ils vont utiliser des méthodes qui vont vraiment attirer les gens. Donc, par exemple, ils vont faire exprès de livrer un message dans lequel on va chercher les émotions des gens. Parce qu'on est plus facilement convaincu par un discours qui va chercher nos émotions que par un discours rationnel comme celui que propose la science à l'habitude. Donc, c'est beaucoup plus convaincant d'écouter la première version. Non seulement ça, il y a toute une théorie là, qui est élaborée sur comment faire un vidéo accrocheur. Donc, juste parce qu'il y a des grandes écritures, qu'on voit des visages, qu'on voit plusieurs éléments comme ça dans certaines vidéos, ben c'est des gens qui font exprès de mettre ces éléments-là pour attirer encore plus les gens, puis les convaincre que c'est sérieux, puis que c'est fondé ce qu'ils disent, alors que parfois ça l'est pas tant que ça. C'est quelque chose qui est moins développé du côté scientifique. Donc, justement, on est beaucoup plus rationnel, on est beaucoup plus by the book, structuré, donc c'est moins intéressant, on va moins aller chercher les émotions des gens, puis on va moins aller chercher les processus cognitifs qui attirent l'attention des gens.
T'sais, puis aussi, vous êtes moins polarisé aussi, qu'on peut le voir dans les fausses nouvelles. T'sais, vous êtes scientifiquement, vous n'avez pas d'absolu tant que ça, parce que vous savez que la science est en constante mouvance. Donc, les gens sont plus confortables parfois, j'imagine psychologiquement, de voir des choses très polarisées que de lire des nouvelles qui sont plus fondées scientifiquement, mais qui sont moins, justement, blanc ou noir. Ça, c'est insécurisant, c'est inconfortable pour les gens?
Oui. En ce moment, on est dans une société où on a beaucoup de choix, on a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de points positif à ça, mais on en a beaucoup plus à faire qu'avant. Donc, c'est vraiment, ça nous amène une très, très grosse charge mentale d'avoir autant de choix dans notre vie de tous les jours. Là, on décide, est-ce qu'on veut un papier de toilette? On a 10, 20 sortes. Est-ce qu'on veut se brosser les dents? Encore une fois, tous nos choix là, sont vraiment là, en quantité énorme. Là. Donc là, d'avoir un choix de plus à faire, c'est pas facile. On dirait inconsciemment, on a tendance à vouloir éliminer les choix. C'est beaucoup plus facile de le faire en polarisant, au lieu de se dire « Ah oui, mais il y a une nuance, donc à chaque fois que je pense à ce sujet-là et que je parle de ce sujet-là, je dois choisir de quel côté de la nuance je vais. » Non, c'est beaucoup plus facile de dire « Je vais extrêmement d'un côté, c'est beaucoup plus simple, point final. »
Je renchéris sur l'idée qu'on est beaucoup plus sollicité et qu'on a beaucoup plus de choses à faire et un peu moins de temps. Puis pour bien apprendre quelque chose, ça prend du temps. Pour avoir un portrait complet d'une chose, ça prend du temps. Puis les fausses nouvelles misent beaucoup, beaucoup là-dessus, dans le sens qu'ils savent que l'attention des gens est limitée. Puis il envoie un message qui se contient dans ce temps-là, mais souvent, c'est que c'est juste une approximation d'une vérité. C'est sans être complètement quelque chose qui est mensonger. On n'a juste pas le temps de mentionner l'idée complète aux gens. Puis ça fait que ce qui en ressort des fois, c'est pas tout à fait exact, c'est pas tout à fait rigoureux ou ça tend dans les mauvaises directions.
Oh, j'allais juste dire aussi un nombre plus élevé de choix, mais aussi en fait l'accès plus facilement à une quantité d'informations qui est assez énorme là. Puis en lien avec ça, j'oublie aussi que je m'en allais. C'est que, puis en lien avec toute l'information à laquelle on est exposé, il y a aussi une espèce de biais avec les, il n'y a pas des algorithmes mettons, sur Facebook qui font en sorte que tu es plus
plus tu consommes un type d'information, plus tu vas en voir, finalement.
Tu sais, c'est un autre biais cognitif qu'on a aussi. On a tendance à être convaincu par ce avec le quoi on est d'accord déjà, puis on exclut, on dénie un peu plus ce avec quoi on n'est pas d'accord. On fait déjà ça facilement dans la vie de tous les jours, c'est plus facile cognitivement. Puis les réseaux sociaux, comme tu dis, Alexandra, sont déjà faits pour ça. Plus je clique sur un type de sujet, plus il va m'en apparaître plus. Puis quand j'en ignore certains, mais il me les montrera plus à un moment donné. Donc, ça contribue un petit peu à ce biais-là.
Mais ça a le dos large quand même, les médias sociaux. C'est facile de dire « Ah, c'est de la faute à Facebook » puis tout ça, mais dans la fin des années 1800, il y avait des gens qui se pointaient sur le bord de la rue puis qui te vendaient le sérum du docteur Gros-Louis qui guérissait absolument tous les médicaments, puis il faisait des grosses apparitions publiques avec souvent comme un ou deux complices dans l'audience qui disaient « Ah oui, moi j'en veux », puis ça partait à une escalade d'achat de d'autres sources ou de n'importe quoi. Là. Fait que ça a juste pris une plus grande échelle, mais l'idée est toujours là.
Puis tantôt, Carmen parlait d'achat de papier de toilette, d'achat de dentifrice, du choix, mais c'est aussi quelque chose qu'on consomme, les nouvelles. Donc, c'est des choix de consommation aussi, de quoi on se nourrit, si on veut, de quel type de nouvelles on se nourrit. Donc, ça fait partie aussi de ce dilemme-là. C'est un autre choix qui s'ajoute, surtout nos choix d'épicerie, si on veut, puis de produits ménagers.
C'est vrai que c'est plus clair maintenant que les nouvelles, c'est un produit, c'est pas évident pour tout le monde depuis si longtemps que ça, je pense. Puis ça a pris une autre ampleur. Là, on voit c'est qui les grosses entreprises qui génèrent des revenus ces temps-ci. C'est souvent des gens qui tournent autour de la création ou de la distribution de contenu. Fait que c'est rendu effectivement beaucoup de sous qui sont transigés par là. Puis ça peut motiver des gens des fois à faire du matériel, peu importe sa valeur énergétique pour notre cerveau, sa valeur en contenu.
Du fast-food au niveau des nouvelles, si on veut. Non, tout à fait.
Oui, mais j'allais juste dire, puis tu sais, puis tout avec le phénomène des clics aussi, je veux dire, à la limite, quelqu'un qui veut vraiment avoir beaucoup de clics sur sa page, puis tu sais, il y a sûrement des plateformes aussi que tu reçois de l'argent, peu importe, au nombre de clics que tu fais, en fond, fait que tu sais, il y a quand même une monétisation de la fake news aussi, en fait, qu'il n'y avait pas, peut-être pas...
Puis même pour les gens bienveillants, là, comme tu as parlé tantôt, c'est facile de vouloir mettre un titre beaucoup plus accrocheur que ce que c'est vraiment, juste pour générer des clics ou pour faire en sorte que les gens vont vouloir justement consommer notre nouvelle au lieu qu'une autre. Même si on est convaincu que c'est vrai ce qu'on dit, mais le titre parfois laisse sous-entendre autre chose, quelque chose d'un peu plus impressionnant. Puis quand on va voir l'article, bien finalement, ou le vidéo, peu importe, c'est pas tout à fait ce que le titre laissait penser. Puis souvent, les gens se rendent pas. Donc, on fait juste garder la première information.
Mais même les vraies nouvelles font ça maintenant.
Oui.
Pour un peu essayer de compétitionner les fausses nouvelles, ils adoptent un peu les mêmes stratégies du titre accrocheur puis tout ça. Puis c'est souvent, comme tu dis, on n'a pas le temps, c'est juste le titre qui est relayé, cette information-là que tu gardes.
Ce qui fait que c'est encore plus difficile de les différencier au final. Parce que si les vraies nouvelles utilisent les mêmes stratégies que les fausses nouvelles, comment on fait la différence entre les deux? C'est une grande question qu'on va peut-être réussir à répondre un peu plus tard, donner des pistes de solutions, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire la part des choses.
Mais c'est pas une université à Montréal qui avait fait un vidéo de fake news, genre avec un médicament sur le cancer, puis ça s'était quand même promené beaucoup aussi, cette vidéo-là, là.
Puis à la fin, ça expliquait la démarche, là, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils mettent, un peu ce que tu racontais au début, Carmen, là, quelles étapes tu dois contenir dans ton vidéo pour que ça soit bien reçu.
Que ce soit même viral, puis que ça se promène à fond. Bien, moi, je trouve que c'est un beau premier survol, si on veut, de pourquoi, en fait, ce phénomène-là est aussi présent. Évidemment, mais ce qu'on a souligné, on a parlé beaucoup de médias sociaux, mais c'est sûr que l'existence de ces plateformes-là facilite énormément le voyage des fausses nouvelles. Autrefois, en traîneau, c'était plus lent avant que ça arrive. Les gens avaient le temps de s'informer avant que la nouvelle arrive, puis de tout ça. Mais là, maintenant, c'est différent. On parle plus de rumeurs de village. Le village s'est rendu Facebook, puis s'est rendu mondial. C'est un village mondial. Donc, c'est ça qui rend le phénomène encore plus présent.
Alors, c'est ce qui va clore, en fait, ce premier balado là, de 15 minutes sur les fausses nouvelles. Merci beaucoup à vous trois, ça a été très intéressant les discussions. On a pu apprendre davantage aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le phénomène des fausses nouvelles, d'où ça vient, d'où ça prend racine dans l'histoire même avec Marc-André. Alors la semaine prochaine, vendredi 19 mars, l'épisode 6 sera publié et cet épisode-là, avec les trois mêmes panélistes qu'aujourd'hui, on va explorer en fait là, comment réagir aux fausses nouvelles, comment réagir à quelqu'un qui nous apporte une nouvelle dont on n'est pas sûr de l'exactitude. Comment on réagit face à ça? Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour cet épisode 6 du balado. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine.